18h précise, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'émission L'Aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes toujours en compagnie de moi-même, Julie Gagné, de Dominique Savoie qui se fait silencieuse mais qui prendra la parole en fin d'émission, de Raymond Poirier à la mise en onde. On le remercie d'ailleurs de nous sauver in extremis des offres d'une émission sans mise en onde. Et je suis rejointe aussi par Bernard Paquet, qui expose en ce moment à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, qui nous présente son exposition « Il n'y a pas que la dernière couche qui compte ». Bernard Paquet, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, merci. Ça va.
Excellent. Bon, « Il n'y a pas que la dernière couche qui compte » semble être une étude ou une réflexion sur la peinture comme construction. Est-ce que je me trompe?
C'est en effet une étude, mais pas simplement théorique. Elle était d'abord intuitive. Elle était reliée à la pratique, à ma pratique de la peinture. Et on sait que la peinture, illusionniste ou non, est un résultat de superposition de couches. Et au fur et à mesure des années de ma pratique, je m'apercevais qu'en passant par différentes étapes, c'est-à-dire les couches, voulant atteindre un certain but, je perdais ou j'avais l'impression de perdre quelquefois quelques couches qui pouvaient être elles-mêmes des œuvres. Et donc l'idée était un peu flottante jusqu'au jour où j'ai rencontré les nouvelles technologies, en l'occurrence pas Photoshop, mais le logiciel Painter, qui me permettait de rentrer dans la peinture d'une certaine façon.
De rentrer carrément. Est-ce que vous cherchez à mettre de l'avant le fait que la peinture, plus qu'une représentation du réel, est une construction de l'esprit, notamment à travers la superposition des couches comme ça?
Elle est une construction de l'esprit. C'est pour cette raison qu'un philosophe comme Walter Benjamin dit que la peinture n'a pas de fond, puisqu'elle est elle-même le fond, elle est elle-même le monde, qu'elle soit illusionniste ou que ce soit le carré bleu, la peinture, le monochrome de d'Yves Klein. Et donc, elle est pleine en ce sens. Mais ce corps vient de couches. Et justement, les nouvelles technologies et le logiciel Painter me permettaient de créer une image conçue à l'image d'une peinture sur un écran, mais qui me permettait de conserver et de jouer avec les couches et de les conserver en les aplatissant pour obtenir l'image finale, tout en les sélectionnant individuellement pour les considérer séparément. Et c'est cette idée technologique qui a créé la possibilité de faire, c'est-à-dire de rentrer, d'espacer les feuilles de la peinture pour rentrer dans la peinture. Voilà.
Et c'est ce que vous avez fait, en fait, avec la matrice feuilletée qui est présentée au centre de la galerie, avec, sur le mur de gauche de l'entrée, justement, tous les dessins qui représentent chacune des couches de la matrice.
Chacun de ces dessins aurait pu lui-même être une œuvre en tant que telle et lui-même être le résultat ou créer d'autres couches. Donc, on s'aperçoit que c'est un processus infini, mais la matière est infinie, mais l'acte consiste à découper cette matière. Mais le résultat, c'est qu'à force de vouloir rentrer dans la peinture par les latéralités, c'est-à-dire en feuilletant l'œuvre, en l'ouvrant comme un feuilleté, on perd un peu la peinture au sens d'un aplat traditionnel pour obtenir un objet en 3D.
Ben oui.
Bon, dois-je la qualifier de peinture? Je n'en sais rien, mais c'est ce que j'obtiens en étudiant les couches de la peinture.
Voilà. C'est ça. Puis justement, la matrice feuilletée, c'est des feuilles. C'est des feuilles de quoi exactement, la matière transparente?
C'est du polycarbonate qui s'appelle le Mélinex, que j'ai trouvé dans l'industrie.
Voilà. Okay. Parce que ça s'apparente aussi beaucoup à des acétates qu'on va utiliser à l'école, dans les cours. C'est une dizaine de feuilles, je crois, de ça qui sont séparées.
Il y a exactement 15 feuilles.
15,
en fait, j'ai conçu 3 œuvres, chacune composée de 15 feuilles. Le chiffre 15 est arbitraire puisque je prévoyais obtenir un feuilleté dans l'espace. Par conséquent, je travaillais dans l'ordinateur avec 15 couches. Parce que, évidemment, si j'avais travaillé avec 60 couches, j'obtenais l'équivalent d'un train, quoi, finalement.
Ben oui, carrément. Mais ça, on peut la regarder de devant, de derrière, de côté. Est-ce qu'il y a un angle que vous préférez pour le spectateur à regarder cette matrice feuilletée-là?
Pas nécessairement. Justement, elle est faite pour être ouverte et vue de partout. C'est-à-dire que la conception, c'est important de comprendre que la conception est d'abord numérique. C'est une conception d'ordinateur en vue de faire de la peinture. Dans cette conception, il y a un devant et un derrière. Il y a une vue frontale que j'ai toujours sur l'écran de l'ordinateur, avec, dans le cadre du paysage, la perspective monoculaire d'un bon petit paysage traditionnel. Mais, en fait, ce qui se passe avec la matrice, par le biais de l'ouverture, c'est que le devant et le derrière n'ont plus de sens. On peut la considérer de côté, obliquement, en s'accroupissant. Voyez? Et donc, on constate que la fonction de chacune des couches dans une image aplatie sur l'ordinateur, oui, ben, n'est plus la même dans le feuilleté. La couche prend une autre fonction.
En fait. Oui, puis la notion de profondeur aussi, de l'illusion de profondeur est amenée d'une autre manière parce qu'il y a physiquement une vraie profondeur qui sépare les couches.
Ben, c'est un point très important, en fait, que vous soulevez. Vous avez tout à fait raison, Julie. En fait, je disais tout à l'heure que la peinture n'avait pas de fond puisqu'elle est elle-même un corps.
Ouais.
Hein, d'où sa puissance de l'illusion qui a fait l'image pendant des siècles. Et là, je me suis rendu compte en faisant ces matrices que par la transparence, ben, cette question du fond doit être remise en doit être repensée ou reconsidérée, puisque voyant au travers, on voit autre chose que la peinture elle-même. On voit un spectateur, une fenêtre, une colonne, une partie de la galerie, de la lumière, etc.
Puis il n'y a plus nécessairement non plus la hiérarchie entre le premier plan, le deuxième et le troisième, puisqu'on peut prendre l'œuvre de n'importe quel côté aussi.
Oui, j'imagine. En fait, dans la hiérarchie de l'image sur l'ordinateur, le paysage a un point de vue qu'on impose au spectateur. Mais là, le point de vue éclate en milliers de points de vue et la hiérarchie change complètement. Donc, un paysage devient des milliers de paysages, en fait.
Effectivement, mais aussi, bon, il n'y a pas seulement la matrice feuilletée dans l'exposition. Il y a pourquoi, au moins une vingtaine d'autres œuvres, des petits, j'appelais ça des petits cubes, des rubans, des livres qui sont explosés sur les tablettes des murs. Ça relève de quelle technique? Parce que là, vous jouez aussi sur la notion de couche, de superposition et de profondeur, mais sur des œuvres qui sont littéralement 3D. Mm. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement avec ces...
En fait, je voulais... cette idée est née d'une petite pastille que j'avais regardée avec Lisanne Nadeau, la conservatrice de la galerie, avec laquelle j'ai travaillé pour préparer et concevoir l'exposition. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier, Lisanne, si elle m'écoute. Donc, l'idée était de travailler avec l'acrylique, avec des couches, mais cette fois-ci en plein. C'est-à-dire que tous ces objets sont à 100% d'acrylique. Il n'y a rien d'autre que de l'acrylique. Et en fait, les espaces qui seraient représentés dans la matrice par le vide et par l'air sont, dans le cas de ces petites œuvres, des couches de médium pur sans pigment, en fait, transparentes. Mais j'obtiens évidemment une matière et j'obtiens encore une troisième dimension qui est proche de l'objet, mais c'est toujours sur un travail de couche, de superposition, hein, qui cette fois-ci n'est pas d'origine numérique.
Oui, et un travail de couche et de superposition qui peut-être prend forme pour le spectateur visuellement dans l'espace plutôt que sur une surface bidimensionnelle, comme on va retrouver en peinture, je dirais la peinture normale ou la peinture telle qu'on la connaît depuis longtemps. Moi, ce que j'ai observé aussi à travers ces petits objets-là, c'est... de base, souvent, il va y avoir comme des lignes de couleurs, des couches de peinture et... d'acrylique, mais j'ai ressenti peut-être un travail de trompe-l'œil parce que par moments, on dirait du verre, on dirait carrément autre chose. Avec la lumière aussi qui est projetée différemment, ça va créer des ombres qui se reflètent sur le mur. Est-ce qu'il y avait un souci justement de travailler le trompe-l'œil, l'illusion?
Pas du tout. En fait, il faut bien comprendre, c'est important, que les formes obtenues, surtout dans les dernières pièces qui sont suspendues et qui sont éclairées et qui projettent de l'ombre derrière, que ces formes colorées, ce que l'on pourrait appeler la composition, est le résultat du travail de couches d'acrylique qui ont donné des blocs, qui ont été tranchés, lesquelles tranches ont été superposées pour donner d'autres blocs qui ont été retranchés. Et conclusion, c'est la couche qui donne les formes, donc c'est la couche qui serait, disons, un gène de la peinture.
OK, donc une espèce d'ADN
dont la combinaison avec quelques éléments, c'est-à-dire quelques éléments, quelques épaisseurs de couches et quelques couleurs, permet de donner une combinaison infinie de formes. Parce que ces formes ne sont pas peintes. Hein. Quelqu'un m'a demandé en voyant le carton si j'avais moi-même peint des petits carrés que l'on voit sur le carton. Ce sont simplement des fragments de couches qui se retrouvent tels quels et qui ressemblent à des chromatogrammes, je crois, ou des séquences d'ordinateur ou des images d'ADN, finalement. voyez? Ouais. Et ce petit élément, bon, chaque couche peut devenir une œuvre. Et je reviens à ce moment où j'étais dans l'atelier, voilà peut-être 15 ans, et mon épouse Corinne était venue jeter un coup d'œil sur la toile que je faisais. Il m'avait dit « Pourquoi tu n'arrêtes pas ici ?» alors que mon projet était d'aller ailleurs. Et c'est à partir de ce jour qu'il y avait eu ce déclic en me disant « Oui, mais dans le fond, cette couche, cet état de couche que j'ai conservé, alors que je voulais aller ailleurs, est devenu une œuvre que j'ai même vendue par la suite. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je peux combiner comme ça des couches et faire d'autres œuvres. Évidemment, c'est un processus infini.
Ben oui, exactement. Peut-être une dernière question en terminant. Bon, il y a plusieurs titres des œuvres qui font référence à des artistes de différentes époques, tu sais, Polo, Lucio Fontana, Mondrian. Est-ce que vous en êtes inspiré de ces artistes-là en créant les œuvres ou c'est plutôt quelque chose que vous avez vu après dans la forme?
Non, pas
ou...
du tout. Les titres sont des clins d'œil à la fois aux artistes et à l'histoire de l'art et à la peinture. Parce que il faut bien comprendre que le processus qui a consisté à créer ces œuvres pendant mon année d'études et de recherche en France l'année dernière était un processus d'accumulation de couches. Donc, rien n'était prémédité, prévu. Et quand, par exemple, je mets le titre « Si Lucio Fontana avait su », c'est un clé d'œil parce que Lucio Fontana perçait la toile et la fendait pour montrer qu'il n'y avait rien derrière. Mais là, il aurait eu un problème puisque derrière, il y a les couches, vous voyez?
Okay,
donc, c'est ce type de clin d'œil que je voulais mettre.
Est-ce que ça a une portée pédagogique un peu? Parce que je sais que vous êtes enseignant à l'École des arts visuels. Est-ce que derrière l'exposition, il y a cette volonté-là aussi de montrer...
Il n'y a pas dans l'immédiat cette volonté. Cette volonté sera plutôt à long terme dans l'application ou l'introduction de nouveaux projets que je pourrais mettre, vous voyez, dans mes cours. Parce que quand j'en considère l'autre titre qui est celui de, je crois, c'est Comment Tiepolo peignait les ciels. La dernière couche du dessus est bleue, mais en dessous, il y a peut-être 60 couches.
Ben oui.
Donc, est-ce que le ciel bleu nécessite 60 couches en dessous? Donc, quel est le principe de la peinture? Et en fait, c'est pour mettre le doigt peut-être pour les étudiants sur l'importance justement des couches en peinture et de la texture et des épaisseurs finalement.
Ben, Bernard Paquet, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé à aller visiter l'exposition, ça vaut le détour. C'est « Il n'y a pas que la dernière couche qui compte », littéralement, de Bernard Paquet. C'est présenté à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 10 octobre au 295 Boulevard Charest. Nous, ici à l'Aérospatiale, on fait une petite pause audio, toujours avec le choix d'Éric Dorion. Un extrait d'art audio qui est tiré de « The Plastic People Issue ». On écoute « Fool's Fire » de Jacob Kierkegaard. Ah, c'est quoi, RL? C'était Fool's Fire de Jacob Kierkegaard, toujours tiré de Plastic People Issue, qui est un numéro du magazine Vibro, toujours à l'aérospatiale. Et là, c'est l'heure de parler de Gilbert Poisson, qui expose à Matériel le jeu du collectionneur. C'est ce que tu es allé voir, Dominique.
Oui, effectivement, c'est ça que je suis allée voir. En fait, Gilbert Poisson, c'est un artiste multidisciplinaire qui, de formation, en fait, a une pratique de céramiste, mais qui, avec le temps, donc c'est un artiste qui pratique déjà depuis une trentaine d'années facilement, qui a touché à d'autres médiums, donc aussi la sculpture, l'installation, la murale. Et dans le cadre de l'exposition à Materia, il a décidé de nous présenter, dans le fond, une espèce d'œuvre bilan de carrière, aussi en même temps une espèce
comme
de
topo, une synthèse.
Un genre de synthèse, je dirais. Le principe, donc, c'est le jeu du collectionneur, c'est-à-dire l'amassement, l'accumulation d'objets. Donc, l'exposition se présente en quatre parties. Donc, disons, la première partie, celle qui frappe vraiment quand on rentre dans la salle d'exposition, c'est la collection en tant que telle. Donc, Gilbert Poisson, pendant plusieurs années, donc, a accumulé plusieurs objets. La plupart sont donc en bois, mais on en retrouve aussi dans d'autres matériaux, entre autres le métal, un peu d'acrylique. Et il s'agit donc de plusieurs objets grappillés ici et là. Il s'agit entre autres, bon, c'est beaucoup des objets du quotidien. Gilbert Poisson s'intéresse beaucoup à certains, des champs d'intérêt quand même assez variés, mais entre autres, souvent dans ses œuvres, on va retrouver la notion de temps, d'espace, de mémoire. Donc, dans le cas présent, étant donné que c'est une œuvre un peu bilan, on peut trouver ça intéressant. Et entre autres, parmi cette collection d'objets-là, on va retrouver beaucoup d'objets qui appartiennent au passé. On retrouve des bols, des ustensiles là, qu'on retrouve presque dans toutes les cuisines de nos grands-mères.
Ben oui, ou qu'on retrouve dans tout, dans tous les endroits
exactement,
où on vend des choses
usagées.
Exactement,
on en a tous déjà eu, effectivement. Vous allez avoir des objets qui marquent le temps. Donc, on a un métronome, des horloges.
Très, très vintage.
Hein. Exactement, on a aussi des montres de poche. Des sabliers, donc on voit ici là, la notion justement temporelle. Et on va retrouver aussi, encore une note au passé, des jouets en bois, des vieux jouets. On a des autos, des animaux en bois, des casse-têtes, les fameux blocs, les cubes avec les lettres de l'alphabet.
Ben oui.
On retrouve ça.
Un jeu de construction aussi.
Un jeu de construction, des casse-têtes, des jeux d'échecs. Donc il y a vraiment aussi cette notion d'humour, là, de ludique présent là, dans son accumulation, disons, d'objets. Ensuite, cette accumulation fait quand même une bonne partie de la galerie.
Oui, dans une mise, mise en scène, mais une mise en espace sur le mur qui qui va de plus grand à plus petit, qui se dédouble, qui revient plus grand.
Puis il y a des objets qui se répètent. C'est beaucoup, c'est très géométrique. C'est vraiment une recherche sur la forme, là, on pourrait dire. Au point, justement, donc, ces objets-là, on en compte auprès de 600 objets.
600 sur toutes les murs,
oui,
les
sur
trois
le
murs
mur,
de la galerie.
Exactement. Donc, on a 600 objets. Et j'ai l'impression que, tu sais, on peut pas parler d'une recherche de couleur puisque c'est, en général, assez monochrome, là. C'est surtout la couleur des matériaux, les essences de
ou
bois.
Des vernis, puis,
exactement. Les essences de bois, les vernis, les touches métalliques, là, avec certains objets. C'est surtout une recherche sur la forme. Et cette recherche-là revient dans ces trois autres volets qu'on voit justement dans la galerie qui s'étendent donc dans les autres espaces. Ça va dans les vitrines, au centre de la salle et même dans l'espace qui normalement est réservé à la boutique.
On continue l'exposition.
C'est assez exceptionnel.
C'est la première fois que je vois ça, en fait.
Je crois que c'est une des premières fois, effectivement, dans les 10 années là, de la galerie Materia. Donc, parmi les deux autres, les trois autres volets, vous avez l'objet central aussi qui est assez important.
Qui est le jeu du collectionneur, si je ne me trompe pas.
Exactement. Donc, la notion de jeu est justement placée au centre. C'est une espèce d'aménagement, je pourrais dire, architectural, ludique, qui rappelle un peu justement les cités utopiques là, qu'on pouvait retrouver soit au 19e siècle ou encore 20e siècle avec
Le
Corbusier. Le
Corbusier, exactement.
Donc, vous avez une ville qui a été créée à partir des silhouettes, donc de ces objets-là qui sont étalés sur les murs.
Silhouettes de sa pète, d'une spatule. capsule de bois.
Exactement.
D'une semelle.
Vous avez un sac, c'est comme un ombrage, en fait, l'ombre d'un sac qui a créé une nouvelle forme, qui crée un bâtiment. Vous avez l'horloge qui crée un édifice, des gratte-ciels. Tout ça dans une espèce d'aménagement urbain et qui prend quand même pas mal de place.
Ben oui.
C'est comme une immense maquette, finalement. Donc, qui occupe la partie centrale de la galerie. Super intéressant. Donc, on a fait des silhouettes en bois et en acrylique. Donc, on joue avec la notion de transparence aussi.
Ben oui.
Finalement, le troisième, quatrième volet, donc, c'est la partie davantage céramique. Donc, on se rappelle, Gilbert Poisson est à la base céramiste. Et ce sont deux volets, donc, qui reprennent encore une fois les silhouettes. L'œuvre s'appelle Shadows, donc,
ouais, les ombres,
donc les ombres.
En noir, d'ailleurs.
En noir, effectivement. Donc, c'est des objets en porcelaine. Puis, il faut vraiment s'approcher pour comprendre la texture de la porcelaine.
Oui, parce que de loin, on pourrait presque croire en carton épais.
Effectivement, parce que c'est vraiment... c'est très lisse. Ça a été probablement, donc, poli. Et on retrouve donc encore une fois les mêmes formes, les mêmes ombrages, donc silhouettes de cette collection qui prend la structure, le gros des murs de la galerie. Et cette fois-ci, donc porcelaine et vraiment là, la notion noir et blanc. Donc,
en fait, c'est qu'il redonne des vies à ces objets-là.
Exactement.
En fait, qui sont désuets. On a l'objet de collection, ensuite on en prend la silhouette, ensuite on fait l'ombre.
Effectivement, puis... Là, on a un effet aussi assez trois dimensions, bas-relief un peu. Tu sais, ça devient presque plus une sculpture. C'est vraiment intéressant à voir. Puis là, ben, c'est de se promener dans cet univers-là aussi là, qui est intéressant. Ça devient très poétique, finalement.
Oui.
On donne une deuxième fonction à l'objet. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire le détour. Puis on comprend aussi, bon, c'est une œuvre qui s'étale sur plusieurs années. Là. On parle de plusieurs années pour accumuler les objets.
Oui, c'est ça. Là,
c'est des objets du quotidien. Donc,
d'où l'idée de synthèse.
Exactement.
Aussi,
puis, ben, aussi, on voit aussi la progression de l'idée. T'sais, on est parti d'une collection concrète. On en a fait bon, des objets à la base un peu ludiques, donc la ville. Et ensuite, ben, c'est vraiment un sujet d'étude. Là. Le dernier volet, qui est plus le Shadows, là, c'est vraiment... là, on arrive à un autre niveau. Là. Donc, c'est vraiment une exposition intéressante. Ça vaut le détour. C'est jusqu'au 10 octobre.
Jusqu'au 31
octobre. Donc, le jeu du collectionneur, ça vaut la peine.
Voilà, c'est présenté à la galerie Materia, qui est située au 395 Charest-Est. Dominique Savoie, merci beaucoup.
Merci.
On se revoit dans un mois. C'est un très bon baptême de radio. Je te félicite très fort. Nous, on s'en va en pause audio. On va écouter Silo d'Andrea Williams à CKRL. Alors, c'est un extrait de Silo d'Andrea Williams qu'on vient d'entendre à l'émission L'Aérospatiale, l'émission d'ailleurs qui se termine imminemment. Bien entendu, avant de terminer, je vous fais un petit calendrier des nombreux, voire multiples, voire infinis événements en art actuel en ce moment. Si vous habitez dans le quartier Saint-Roch, que vous avez le temps de vous rendre dès maintenant, il y a Equinox, qui est un laboratoire d'art performance qui se fait en parallèle de la rencontre internationale d'art performance, qui débute aujourd'hui à 18h30 au 336 rue Sainte-Hélène. Parmi les performateurs de Québec notamment, Marie-Claude Gendron, Adam Bergeron, Marie-André Godin, Christian Messier, Hélène Matte, Guillaume Adjuteur-Provost, Maryse Larivière, Michel Lacombe, et j'en passe, donc c'est gratuit, ça commence à 18h30, je le répète, au 336 rue Sainte-Hélène. Jeudi, lancement de la troisième affiche pour le 25e anniversaire de l'œil de poisson, c'est à 17h au Cercle. L'affiche dans ce cas-ci a été faite par Olivier Bérère-Vidal et Ariane Plante. Si vous êtes intéressé à vous la procurer, elle coûte 25$ comme prix de lancement. Bien entendu, faut pas oublier la rencontre internationale d'art performance, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20h au 735 Saint-Joseph-Est. Si vous voulez aller au colloque, c'est le 26 septembre en après-midi, au lieu, donc au 345 rue du Pont. Parmi les expositions, Bernard Paquet à la Galerie des arts visuels, à l'établi, Caroline Penneau expose à marée haute jusqu'au 30 septembre. À la Maison Abel Bruno, une exposition qui commence, je crois, le 22 ou 23 septembre, une exposition qui a été faite sous le commissariat de Sébastien Hudon, qu'on connaît pour ses critiques dans Le Voir, une exposition qui s'appelle Concerto en bleu majeur, qui réunit des créations des artistes intéressés par la musique ou encore qui établissent des correspondances entre la musique et la peinture. À la bande vidéo, Frédéric Lavoie nous présente Sur la côte d'Abraham. Je pourrais en dire comme ça à l'infini, effectivement, ou Gilbert Poisson à Materia jusqu'au 31 octobre, mais hélas, l'émission se termine. De toute façon, si vous voulez voir ce qui se passe en art actuel, vous pouvez aller voir sur le site de Punctum, donc punctum-québec.com. Toutes les expositions sont là. Maintenant, moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'aérospatiale aujourd'hui. Je remercie Dominique Savoie.
Merci à toi.
Je te souhaite une très bonne soirée. Je remercie aussi Raymond Poirier d'avoir fait la mise en onde, de s'être gracieusement prêté au jeu. C'est très apprécié. Et je vous laisse en compagnie de François Fontaine avec « Des phares à brume » qui débute la soirée poésie et nostalgie sur les ondes de CKRL. Bonne soirée!